Bonsoir, comment allez-vous ? Mes enfants disent pull, je dis chandail, mes parents disaient tricot. Et oui, car un tricot, ça se tricote. Et dans ce domaine, une fois encore, nous ne sommes pas égaux. Je crois que le cadeau qui m'a fait le plus plaisir de ma vie est un tricot rouge et blanc avec bonnet assorti. Une merveille de qualité, de beauté, de perfection. Réalisé par Hélène Le Guenec de Kerlédan. Ça ne date pas d'hier et il me tient encore chaud. Tout le monde n'a pas eu ma chance. Dans la famille d'Eliane qui vivait à l'étranger, il y avait une solide organisation tricot. La grand-mère paternelle tricotait le devant d'un pull, l'autre grand-mère le dos, les pièces arrivaient par la poste chez la maman qui peut-être réalisait les manches et assemblait le tout. Je ne sais pas à quoi ressemblait l'ensemble, mais je sais qu'Eliane, maintenant, refuse tout net de porter le moindre pull et nous impose 25 degrés au bureau. Quant à Marjorie, c'est une exhibitionniste des pieds. Elle les montre à tout le monde, tant elle est fière de ses super jolies chaussettes, douces, inusables, tricotées par Thérèse Cubizol, à La Close en Haute-Loire. Jeune, j'ai tricoté au point mousse une espèce de pull robe de bure à l'homme de ma vie. Il ne l'a jamais portée, même pas une seule fois, même pas pour descendre les poubelles. Nous avons malgré tout eu deux enfants qui ont manifesté très tôt le souhait que je ne leur tricote rien. Les tricots ont tricoté la vie de toute une génération et en ce moment, tant pis ou tant mieux, ça revient.
J'ai 7 ans et je voudrais savoir combien est la longueur d'une pelote de laine.
Quelle est la longueur d'une pelote de laine? C'est une question que je me suis effectivement souvent posée aussi. Clara Gallet-Poinen, vous êtes responsable de la communication de Bergère de France qui fabrique de la laine dans une filature de Bar-le-Duc en Lorraine. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Oui, alors il existe différentes sortes de pelotes de laine et la longueur dépend de deux choses, le poids de la pelote et l'épaisseur du fil. Donc selon le poids de la pelote, on peut avoir une longueur qui est plus ou moins importante. Oui. En général, les pelotes font 50 grammes. Donc pour les pelotes de 50 grammes, on a des longueurs de fil qui vont de 30 mètres à 500 mètres.
Wow.
Donc plus le fil est fin, plus la pelote sera longue. Sur des fils fantaisie qui sont assez épais, on aura des longueurs qui seront moins importantes.
Donc, vous m'avez dit, Clara Gallet-Poinen, que sur une pelote de 50 grammes, j'allais dire la pelote classique, la petite
pelote classique,
ça va de combien à combien?
De 30 mètres à 500 mètres environ.
Pas mal, hein?
Oui. Donc, quand on tricote ou quand on crochète des ouvrages, on va calculer le nombre de pelotes nécessaires pour réaliser un pull ou un gilet, par exemple. Et la longueur du fil est déterminante pour faire les calculs de tous les modèles. Et pour réaliser un ouvrage, on va tricoter ce que l'on appelle un échantillon. C'est un carré de 10 cm de côté qui va nous permettre de déterminer, en fonction de la manière dont on tricote, le nombre de pelotes dont on aura besoin pour faire un ouvrage.
Dites donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être un petit peu bon en maths ou en calcul pour arriver à tomber juste.
Oui, avant de se lancer dans un ouvrage, on a beaucoup de calculs à faire et même pour la fabrication des modèles. Dans l'usine de Bergère de France, on a beaucoup de calculs à réaliser avant toute chose.
C'est curieux parce que Clara Gallet-Poinen, vous dites fil pour de la laine.
Oui, tout à fait.
On dit fil pour de la laine.
On dit fil puisqu'il y a différents éléments qui rentrent en compte dans la composition des fils. On a des pelotes de laine qui sont faites de différents types de laine et on a aussi des matières synthétiques qui vont venir s'ajouter à toutes ces matières naturelles pour rendre le fil plus ou moins souple et pour l'adapter aux différents ouvrages que l'on va faire avec. Donc on a par exemple des fils qui sont réalisés pour des chaussettes. Et on va ajouter des matières synthétiques pour le rendre plus souple.
Vous allez peut-être répondre à une question. Très souvent, dans des textes un peu anciens, les contes entre autres, on croise ce verbe « carder ». Elle cardait la laine. Qu'est-ce que ça veut dire « carder la laine » ?
C'est un traitement qui est ajouté à la laine pour la préparer avant le filage. Donc on peut peigner la laine ou on peut la carder pour la rendre plus malléable avant de la filer.
Donc vous filez la laine?
Oui.
Vous la recevez comment? Comme elle était sur le mouton?
On la reçoit brute à l'usine. Elle nous est livrée en grands packs de laine qui vont être ensuite traités à l'usine. On a plusieurs étapes. La laine va être teinte dans nos ateliers et ensuite elle va être filée, donc transformée en grande bobine. Et la dernière étape va consister à la mettre en pelote.
Donc voilà, pour répondre à la question, une pelote de laine, ça fait entre...
Entre 30 et 500 mètres.
Dites donc, vous êtes jeune, vous n'avez pas connu l'époque où pour récupérer la laine, on détricotait. on récupérait la laine et on retricotait. Je peux vous dire, c'était du boulot. Oui. Hein.
Alors ça arrive pour les tricoteuses. On détricote souvent quand on a fait une erreur.
Ah ouais,
oui,
c'est vrai.
On est toujours habitué à détricoter les ouvrages.
Merci Clara Gallet-Poinen. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 6 ans et je voudrais savoir comment la rose de sable se fait. Merci.
Bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir comment se forment les roses des sables. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Maëlle et Suzanne. La rose des sables, Patrick Voileau, vous êtes spécialiste des pierres précieuses. Mais la rose des sables, vous connaissez.
Oui, la rose des sables, c'est du gypse. Et le gypse, c'est la pierre qu'on utilise pour faire du plâtre. C'est un sulfate de calcium. Et en réalité, comment elle se forme? Elle se forme comme tous les autres minéraux, c'est-à-dire qu'il y a du soufre, de l'oxygène et du calcium qui se trouvent dans un milieu où il fait très chaud, dans le magma en général, où on a ces différents éléments ensemble et les charges électriques qui sont sur ces éléments vont s'attirer et ça va se positionner. Et petit à petit, ça forme le cristal que l'on voit, c'est-à-dire comme une ellipse. C'est un cristal qui se forme ainsi en fonction de la disposition des atomes dedans.
Donc ça ne se forme pas du tout avec le vent?
Non. Le pipi de chameau et le vent dans le pipi de chameau, c'est une pure légende.
D'accord.
C'est une pure légende, non. Simplement, on trouve les roses des sables dans le désert, parce qu'il faut savoir qu'avant, dans le désert, il y avait la mer. Et ces éléments, le calcium, le soufre, l'oxygène, etc., se trouvent énormément dans le milieu marin. Et quand les mers sont parties, il y a énormément de minéraux qui sont déposés à ces endroits-là. Et ça a formé les roses des sables.
Rose des sables, c'est le nom du bâtiment de l'architecte Jean Nouvel, inauguré le 27 mars dernier, il y a quelques jours donc, à Doha, au Qatar. Et c'est le musée national du Qatar.
Been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, but me as I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. It must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, but me as I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth,
And I go all in on sometimes, just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on sometimes, just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on sometimes, just like the rest of us.
Too much. Que c'est beau, cette voix un peu fêlée. C'était Lou Doyon qui disait à Télérama « J'écris des chansons pour coudre les choses ensemble. Je cherche à réparer, à rassembler. »
Les petits bateaux sur France Inter.
Ce week-end était consacré au site d'action. Comme bon nombre de médias, France Inter s'est mobilisé. Même si le week-end tire à sa fin, il est toujours temps de faire un don et ou de s'informer. Vous trouverez la marche à suivre sur le site des petits bateaux.
Je m'appelle Dalila et j'ai 25 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi les moustiques ne transmettent pas le sida. Merci.
Bonsoir Dalila. C'est pas idiot votre histoire, parce que le moustique transporte du sang? Enfin, c'est ce que nous allons demander au docteur Philippe Charlier, médecin légiste et archéologue. Alors, Dalila se demande pourquoi le moustique ne transmet pas le sida.
Eh bien, Dalila n'est pas la seule à s'être posé la question. Pas mal de scientifiques se sont demandé pourquoi on avait cette chance que le virus du VIH ne soit pas transmis par le moustique. Au contraire, d'autres maladies, malheureusement, épidémiques. Alors, ce qui se passe en pratique, c'est que le virus du VIH, quand il est absorbé dans le sang qui est piqué, il est complètement détruit par le pH, par l'acidité qui est à l'intérieur de l'estomac du moustique. Et de la même façon, les enzymes, les protéines qui dégradent tout ce sang pour le digérer, dégradent également le virus du VIH, qui est quand même un virus extrêmement fragile. Puis d'autre part, quand un moustique pique, il ne vomit pas ce qu'il a à l'intérieur de son estomac au moment où il pique, mais il injecte. Il ne fait que prendre, mais il injecte quand même quelque chose pour anesthésier un petit peu et empêcher la coagulation du sang dans sa trompe. Et ce qu'il injecte, c'est de la salive. C'est ça qui gratte après, qui est un petit peu urticariant et qui fait une petite réaction allergique. Et c'est dans cette salive que se nichent certains parasites ou certaines bactéries, notamment la dengue et aussi le paludisme, ce qu'on appelle le plasmodium, notamment le falciparum. Mais ce sont différentes espèces de moustiques qui sont à l'origine du transport de ces agents infectieux. Un moustique bien particulier qui s'appelle Aedes aegypti, qui lui transmet la dengue. Et puis la femelle uniquement de l'anophèle, c'est la seule qui pique et qui mange du sang, et c'est elle qui transmet le paludisme. Donc chaque type de moustique à son propre parasite ou son propre agent infectieux. Et tous les moustiques, par contre, ne piquent pas et ne transmettent pas quelque chose.
Donc, le moustique qui a piqué quelqu'un qui était infesté du sida, par exemple, s'il va piquer quelqu'un d'autre, entre-temps, le...
ne transmettra pas le VIH.
Et elle ne vire pas du sang. Elle non. En prend seulement.
Elle le garde. Dans la constitution des espèces, elle n'a pas intérêt à se débarrasser d'une partie de quelque chose qu'elle a pris pour manger.
Non, mais je pensais qu'elle aurait peut-être pu planter une petite pique qui avait déjà servi chez quelqu'un d'autre, comme si on partage la même cuillère.
Les petits résidus qui restent au niveau de la trompe sont en quantité trop infime, trop infinitésimale pour être contaminants. Et puis trop dégradés. C'est vraiment quelque chose de fragile, le VIH, et heureusement.
Le médecin légiste Philippe Charlier est anatomopathologiste et paléopathologiste. Vous pourrez réécouter cette réponse sur franceinter.fr. Pour les questions, c'est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Clémentine. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que les Français disent que les Anglais cuisinent mal. Au revoir.
Pourquoi les Français disent que les Anglais cuisinent mal ? Vous demande Clémentine. Stephen Clark, vous êtes un écrivain britannique vivant à Paris. Donc vous connaissez les cuisines, les Français, les Anglais.
Oui, c'est une bonne question. C'est peut-être parce que les Français cuisinent si bien, et en comparaison, on cuisine mal. Mais c'est vrai que c'est une légende comme quoi les Anglais mangent mal. Pendant longtemps, c'était assez vrai. Et moi, je me souviens, ma grand-mère, sa spécialité, c'était de tout bouillir jusqu'à ce que ça devienne une sorte de soupe. Même si c'était censé être des pommes de terre, tout devenait une sorte de matière grise horrible. Elle n'avait jamais appris à cuisiner, je pense. Et la cause, je pense, c'est assez lointain, parce que l'Angleterre a été un pays industriel bien avant la France. On a perdu le contact entre la ville et la campagne. Très peu d'Anglais ont des racines à la campagne. Donc les gens en ville ont mangé des choses en ville assez mal cuisinées, très gras. Pommes de terre, pain, bière, c'était un peu le régime dans les usines. Aussi, il faut dire, pendant la guerre, il y avait très peu à manger, très peu d'ingrédients. Les gens ont oublié comment cuisiner les choses fraîches. Ils ont mangé des œufs en poudre, du lait en poudre. Ils avaient très peu de beurre et tout ça. Ils ont commencé même à manger de la baleine. Vraiment, ils ont perdu un peu le goût pour le goût pour le goût. Mes parents me disaient toujours qu'ils détestaient les choses trop épicées, avec trop de goût. C'était étonnant. Maintenant, on apprend, nous, les Anglais, à cuisiner, je pense. Et d'ailleurs, ça m'amuse toujours, parce que les Français disent « Ah, on mange mal en Angleterre », mais quand je vais à Paris, il y a des magasins anglais qui vendent des gâteaux et des biscuits et tout ça, et les Français en achètent plein.
Oui,
et
c'est juste.
Et les Français adorent aller en Angleterre et manger le fish and chips, par exemple.
Oui, oui.
C'est très gras, ces pommes de terre, mais quand c'est bien fait, c'est pas mal.
C'est très bon, c'est pas mal, c'est délicieux. Bon.
Oui. Et même, il faut que je dise, une fois j'ai lu un livre assez étonnant, c'est un livre sur la nourriture d'Alexandre Dumas, qui a écrit Les Trois Mousquetaires, qui a raconté que lui, enfant, il a vu des soldats britanniques à Paris, après les guerres de Napoléon, cuire le steak sur le feu dans les jardins des Tuileries, et il lui a dit que ça lui donnait faim, et c'était la première fois qu'il avait vu et que les Français avaient vu le steak cuit sans sauce et que c'est nous-mêmes les Anglais qui on a importé le steak frites, peut-être pas les frites, mais le steak cuit comme vous le mangez aujourd'hui, c'est nous qui l'avons importé en France. Donc, allez, il y a longtemps, on cuisinait assez bien pour impressionner Alexandre Dumas. C'est pas mal.
Oui, enfin bon, je veux pas être désobligeante, mais est-ce que le barbecue, c'est de la cuisine? Cela dit, c'est vrai qu'il y a des trucs délicieux chez les Anglais, les biscuits au gingembre, les lemon curd, cette espèce de confiture au citron. Alors, un auditeur nous a gentiment alerté sur les propos d'un de nos invités. Nicolas Braic nous expliquait que l'agriculture industrielle est un grand consommateur d'énergie. Par exemple, produire 7 kilos de blé équivaut à consommer 1 litre de pétrole. Et non pas l'inverse, bien sûr. 1 kilo de blé, 7 litres de pétrole. Sa langue a fourché. 1000 excuses, nous aurions dû le rectifier.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne. En emportant le duvet qui était ton lit un beau matin, et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, c'est très bien, et ce n'est qu'une tourterelle, qui revient à tire d'aile, en rapportant le qui était ton lit un beau matin, et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. Sirène de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet.
secret qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Ce n'est rien, Julien Clerc. L'autre jour, j'écoutais un jeu sur une radio concurrente et la question était « Quelle est la face B d'un tubissime ?» Personne n'a trouvé. Donc j'ai demandé, là dans le couloir à la radio, quelle était la face B de « Ce n'est rien ?» Eh bien, personne n'a trouvé. Alors, à votre avis, quelle était la face B de « Ce n'est rien ?» Rollo le baroudeur. Non, vous gagnez rien, mais enfin, vous n'avez pas trouvé non plus.
Bonjour, je m'appelle Lou et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir si président de la République est un métier. Merci, au revoir.
Bonsoir Lou et merci pour cette question. Votre métier à vous, Bruno Daugeron, c'est d'être écrivain, c'est d'être co-directeur du blog Ius Politicum et c'est d'être professeur de droit public à l'Université Paris-Descartes. Cette question de Lou, qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense que c'est une question extrêmement intelligente et très pertinente. Et je suis frappé par l'intelligence de la question des auditeurs, parce qu'elle renvoie à des problématiques qui sont extrêmement actuelles. Alors j'ai envie de te répondre, Lou, la chose suivante. Est-ce que président de la République est un métier ? Non. Et j'aurais envie de dire, franchement, non, un gros non, bien net. C'est pas un métier. C'est pas un métier, ça peut pas être un métier, c'est simplement une fonction. Parce que ce qui caractérise les fonctions politiques depuis la Révolution française, en principe, c'est le fait qu'elles soient exercées temporairement, qu'elles ne soient pas exercées à vie, et que surtout ce soit une charge publique qui soit confiée pour un temps donné à une personne donnée, et qu'elle ne puisse pas en faire un métier. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce qu'on appelle le mandat du président de la République, c'est-à-dire la durée de ses fonctions, est limité à 5 ans dans notre Constitution et il peut être renouvelable une seule fois seulement.
Donc on ne peut pas être président de la République plus de 10 ans en France.
On ne peut pas être président de la République plus de 10 ans.
En France.
En France, depuis 2008. Mais dans toutes les autres grandes démocraties, comme on dit, c'est à peu près la même chose. Et il ne peut pas y avoir de président à vie. Et quand il y a des présidents à vie, généralement, c'est qu'il y a un problème. Ça fait un peu dictateur, disons que ça fait un peu satrape orientale, effectivement.
Alors vous qui êtes professeur, Bruno Daugeron, de droit public, avez-vous remarqué que les présidents de la République en France étaient meilleurs, plus expérimentés, plus efficaces, meilleurs présidents sur la fin ou sur leur deuxième mandat que sur le premier ? Qu'ils ont appris des choses ?
Tout dépend d'abord s'ils ont la possibilité de faire un deuxième mandat. On a déjà vu que ça n'était pas arrivé, soit parce qu'ils ont perdu les élections, soit parce qu'ils n'ont même pas pu se représenter. Et généralement, l'expérience qu'on peut avoir en France, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, pour le président Mitterrand, on a dit que le second mandat était plutôt un mandat de trop. Et effectivement, il avait des problèmes de santé, mais que généralement, les grandes actions, les grandes réformes se font au début, plus qu'à la fin.
Et un président auquel beaucoup se réfère le général de Gaulle, par exemple.
Oui, ben le général de Gaulle, lui, il ne concevait absolument pas sa fonction comme un métier, tout au contraire. Parce que le général de Gaulle, d'abord, c'était un militaire de carrière, c'était pas un homme politique, il est venu à la politique sur le tard, à 67 ans, et c'est à l'époque de ses 67 ans, 1958, quand on craignait son retour au pouvoir, qu'il avait déclaré de manière très pertinente « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Donc le général de Gaulle, c'était un militaire, et il n'envisageait pas du tout sa fonction comme un métier durable. Et la meilleure preuve, c'est que quand il a senti qu'il n'avait plus le soutien populaire, la légitimité démocratique, comme l'on dit, eh bien, il a engagé sa responsabilité devant les électeurs en faisant un référendum. Il avait dit clairement, si vous ne me donnez pas la majorité pour ce référendum, à l'occasion de la réforme que je vous propose, je partirai. Et il est parti.
Le métier de Bruno Daugeron, c'est professeur de droit public à l'Université Paris-Descartes. Pour ces petits bateaux, au métier de réalisation Marjorie Devoucou, à celui de prise de son Pierre-Yves de Rolin, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et blabla Noël Bréham.
Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr. Pour l'heure, nous vous laissons avec Denis Chessoux.